Chapitre 6e. Le comte André. Au moment où arrivait à Lunéville le billet jeté à la poste par Adrien Sixte, l'homme à qui le philosophe adressait ce suprême appel, le comte André de Jussas, de qui dépendait en ce moment le sort de Robert Gresloup, était lui-même à Rion. Le hasard voulut que ces deux hommes ne se rencontrassent pas, car le célèbre écrivain, en descendant du train, prit place à l'aventure dans l'omnibus de l'hôtel du commerce, tandis que le comte avait son appartement à l'hôtel de l'Univers. Là, dans un salon meublé de vieux meubles, tendu d'un papier fané, avec des rideaux passés et un tapis rapiécé, le frère de la pauvre Charlotte se promenait de long en large. Midi allait sonner à la pendule de cuivre doré, à ce sujet mythologique dont sornait cette pièce que chauffait à grand-peine un feu allumé dans une cheminée qui fumait. Au dehors, c'était sur la ville une pesée d'un ciel de neige, un de ces ciels d'Auvergne où passe par instant le vent glacial des montagnes. L'ordonnance du comte, un dragon à la physionomie joviale, avait mis un peu d'ordre militaire dans ce salon loué de la veille, et après avoir remonté cette pendule, allumé ce feu, il achevait de préparer deux couverts sur la table du milieu. De temps à autre, il regardait aller venir son capitaine, qui, tirant sa moustache d'une main nerveuse, mordant ses lèvres, fronçant ses sourcils, portait sur son mâle visage l'expression de l'anxiété la plus douloureuse. Mais Joseph Pourra, c'était le nom de l'ordonnance, s'expliquait trop bien dans sa simple cervelle que le comte fut à peine maître de lui pendant qu'on jugeait l'assassin de sa sœur. Pour lui, comme pour toutes les personnes qui de près ou de loin touchaient au Jussas Randon et qui avaient connu Charlotte, la culpabilité de Robert Gresloup ne faisait pas doute. Ce que le fidèle soldat comprenait moins, connaissant l'énergie de son officier, c'est qu'il eût laissé le vieux marquis se rendre seul à l'audience. « Cela me ferait trop mal, » avait dit le comte, et Pourra, qui disposait les assiettes et les fourchettes après les avoir essuyées au préalable par une juste défiance pour la propreté du service de l'hôtel, pensait, devant la visible angoisse de son maître, « C'est un bon cœur tout de même, quoiqu'il soit si brusque, comme il l'aimait. » André de Jussas, lui, ne semblait même pas se douter qu'il y eût quelqu'un dans la chambre. Ses yeux bruns rapprochés du nez, qui avait autrefois étonné, presque gêné, Robert Gresloup par leur ressemblance avec ceux d'un oiseau de proie, ne lançait plus ce regard fier qui va droit sur l'objet, si l'on peut dire, et qui s'en empare. Non, il y avait dans ses prunelles une espèce d'inexplicable reploiement de l'être, comme une honte, comme une peur de montrer la souffrance intime. Enfin, c'étaient les yeux d'un homme que l'idée fixe obsède, et que l'aiguillon d'une peine presque intolérable touche sans cesse à la portion la plus sensible de son âme. Cette peine datait du jour où la terrible lettre de sa sœur reçue de la veille, il était arrivé à Éda, précipitamment, sans savoir de quelle manière il révélerait à son père l'affreuse vérité, mais décidé à tirer de Gresloup une juste vengeance. Et le marquis l'avait accueilli par ces mots. « Tu as reçu ma dépêche? Nous le tenons, l'assassin. » Il n'avait rien dit, comprenant que c'était entre son père et lui un malentendu. Et le marquis avait précisé en racontant les soupçons qui pesaient sur le précepteur et que ce garçon allait être arrêté comme meurtrier. Tout de suite, cette idée s'était imposée au frère affolé de douleur, que la destinée lui offrait cette vengeance, objet unique de sa pensée depuis qu'il avait lu, avec quel serment de tout son cœur, la confession de la morte et le détail de sa misère, de ses égarements, de ses résistances, de sa déception atroce et de sa tragique résolution. Il n'avait qu'à ne pas montrer la lettre qu'il tenait là dans son portefeuille, et le lâche séducteur de la jeune fille était accusé, emprisonné, condamné sans doute. L'honneur du nom de Charlotte était sauvé, car Robert Gresloup ne pouvait pas démontrer ses relations avec la jeune fille. Le marquis et la marquise, ce père et cette mère si confiants, si pénétrés de l'amour le plus vrai envers le souvenir de leur pauvre enfant, ignoreraient du moins la faute de cet enfant qui devait leur être un désespoir nouveau par-dessus l'autre. Et le comte André s'était tu. Il s'était tu, non sans un effort violent sur lui-même. Cet homme courageux qui possédait par nature et par volonté les vraies vertus d'un vrai soldat détestait la perfidie, les compromis de conscience, tous les biais et toutes les lâchetés. Il avait senti que son devoir était de parler, de ne pas laisser accuser un innocent. Il avait eu beau se dire que ce Gresloup était l'assassin moral de Charlotte et que cet assassinat méritait un châtiment comme l'autre. Ce sophisme de sa haine n'avait pas dominé tout à fait l'autre voie, celle qui nous défend de nous faire les complices d'une iniquité et la condamnation de Gresloup comme empoisonneur était inique. Une circonstance inattendue et pour lui presque monstrueuse avait achevé de le bouleverser, le silence de l'accusé. Si Gresloup avait parlé, racontant ses amours, défendant sa tête au prix de l'honneur de sa victime, le comte n'aurait pas eu pour lui assez de mépris. Mais non, par un contraste de caractère qui devait paraître plus inexplicable encore à un esprit simple, ce misérable déployait soudain une générosité de gentilhomme à ne pas prononcer un mot dont fut souillée la mémoire de celle qu'il avait attirée dans un si détestable guet-apens. Cet infâme se retrouvait brave devant la justice, héroïque à sa manière. En tout cas, il cessait d'être uniquement digne de dégoût. Le comte se disait bien que c'était là une tactique de cour d'assises, un procédé pour obtenir un acquittement par l'absence de preuves. Mais d'autre part, il savait, par la lettre de sa sœur, l'existence du journal où le détail de la séduction avait été consigné heure par heure. Ce journal diminuait singulièrement les chances d'une condamnation, et Gresloup ne le produisait pas. L'officier n'aurait pas su expliquer pourquoi cette dignité d'attitude chez son ennemi l'affolait d'une colère qui lui donnait des désirs frénétiques de courir chez le magistrat chargé d'instruire l'affaire afin que la vérité parût au jour et que la morte ne dût rien, non rien, pas un atome de son honneur posthume à ce drôle qu'il avait perdu. Quand il se représentait sa sœur, la douce créature qu'il avait aimée, lui, d'une si virile et noble affection, celle du frère aîné pour une enfant fragile et fine, possédée par ce manant, par ce précepteur de hasard, cela lui faisait l'impression d'un outrage si abject infligé à sa race qu'il en rugissait de fureur. Comme autrefois, quand il lui avait fallu, pendant la guerre, assister à la capitulation de Metz et rendre ses armes. Il éprouvait alors un soulagement à penser que le banc d'infamie où s'assoient les faussaires, les escrocs et les meurtriers attendait cet homme et ensuite l'échafaud ou le bagne. Et il étouffait la voix qui lui disait « Tu dois parler ». Mon Dieu, quelle agonie pour lui que ces 3 mois durant lesquels il n'était pas demeuré 5 minutes sans se débattre entre ses sentiments contradictoires. Au champ de manœuvre, car il avait repris son service, à cheval et galopant sur les chemins de Lorraine, dans sa chambre et travaillant sous la lampe, cette question s'était posée devant lui, qu'allait-il faire? Il avait laissé passer des semaines sans y répondre, mais l'instant était venu où il fallait agir et se décider, puisque dans 2 jours, les débats devaient occuper 4 séances, Gresloup serait jugé et condamné. Il y aurait bien du temps encore après cette condamnation, mais quoi, le même débat intime serait à recommencer alors. Lui, l'homme d'action et pour qui l'incertitude était un malaise intolérable, il en était là, après 3 mois, de n'avoir pas pris parti, car en descendant au fond, bien au fond de lui-même, il sentait que son silence actuel n'était encore qu'une résolution momentanée. Il n'avait pas accepté de se taire jusqu'à la fin. Il remettait de parler, mais il ne s'était pas pris la main et donné sa parole, qu'il ne parlerait pas. C'était la raison pour laquelle il lui avait été physiquement impossible d'accompagner son père au palais de justice pendant cette première séance, dont il allait avoir le compte rendu, puisque minuit sonnait maintenant à la pendule 12 coups très grêles, suivis aussitôt d'un carillon dans le clocher d'une église voisine. Le vieux Jussat ne pouvait tarder à revenir. « Mon capitaine, voilà monsieur le marquis, » dit l'ordonnance, qui avait entendu le roulement d'une voiture, puis son arrêt devant l'hôtel, et après un regard jeté par la fenêtre. « Eh bien, mon père ?» demanda André, anxieusement sitôt que le marquis fut entré. « Eh bien, nous avons le jury pour nous, » répondit le nouvel arrivant. Il avait les yeux brillants, de la jeunesse dans la voix et dans les gestes. La passion de la vengeance, au lieu de l'abattre, le soutenait. Il en avait oublié sa manie d'hypochondriaque, et sa parole s'était fait vive, impérieuse et nette. On a tiré au sort ce matin. Sur les 12 jurés, j'ai pris leur nom, et il consulta ses papiers, sur les 12 jurés, il y a 3 cultivateurs, 2 officiers retraités, 1 médecin d'Aigues-Perse, 2 boutiquiers, 2 propriétaires, 1 manufacturier, 1 professeur, tous des braves gens, des hommes de famille, et qui voudront un exemple. Le procureur général est sûr d'une condamnation. Ah, le scélérat, que j'ai eu un bon moment, le seul depuis 3 mois, à le voir qui arrivait entre 2 gendarmes et de sentir qu'il était pris. On ne s'échappe pas de ces poignes-là, mais quelle audace! Il a regardé dans la salle. J'étais au premier banc. Il m'a vu. Le croirais-tu? Il n'a pas détourné les yeux. Il m'a regardé fixement comme pour me braver. Ah, c'est sa tête qu'il nous faut, et nous l'aurons. Le vieillard avait parlé avec un sauvage accent, et il n'avait pas remarqué la douloureuse expression que son discours avait éveillée sur le visage du comte. Ce dernier, à l'image de son ennemi ainsi vaincu par la force publique, saisi par les gendarmes, comme broyé dans le formidable engrenage de cette anonyme et invincible machine de la justice, avait frissonné d'un frisson de honte, la honte d'un homme qui a chargé des bravis d'une besogne de mort. Ces gendarmes et ces magistrats, il les employait comme des bravis, en effet, comme les ouvriers d'une action qu'il eût tant aimé à exécuter lui-même de ses mains et sous sa responsabilité. Décidément, oui, c'était l'âge de n'avoir pas parlé. Et puis ce regard lancé par Gresloup au marquis de Jussa, que signifiait-il? Savait-il que Charlotte avait écrit sa lettre d'aveu à la veille de son suicide? Et s'il le savait, que pensait-il? La seule idée que ce jeune homme pût soupçonner la vérité et les mépriser, le marquis et lui, de leur silence, alluma la fièvre dans le sang du comte. Non, se dit-il quand le marquis fut parti pour la reprise de la séance, après un déjeuner mangé à la hâte et presque sans échanger un mot. Je ne peux pas me taire, je parlerai ou j'écrirai. Il s'assit à la table et il commença de tracer machinalement ces mots en tête de la feuille. Monsieur le Président. Le soir tombait que cet homme malheureux était encore à cette place, le front dans sa main, et n'ayant pas écrit la première ligne de cette lettre. Il attendait les nouvelles de la seconde séance, et ce fut avec un saisissement qu'il entendit son père en raconter le détail. « Ah, mon bon André, que tu as eu raison de ne pas venir, quelle infamie !»« Quelle infamie !» Gresloup a été interrogé. Il continue son système et refuse de parler. Ce n'est rien, mais les experts sont venus rapporter les résultats de leur analyse. Notre brave docteur, d'abord, sa voix tremblait, le cher homme, quand il a décrit son impression devant notre pauvre Charlotte. Tu sais, à son entrée dans la chambre, et puis le professeur Armand. J'ai cru que je ne pourrais pas entendre cette horrible chose. Cette autopsie de notre ange est allée là, devant cette salle, où il y avait bien 500 personnes. Et puis le chimiste de Paris. S'il restait encore un doute après cela. La fiole dont il s'est servi, ce monstre, était sur la table, je l'ai vue. Et puis, ah, comment a-t-on osé? Son avocat, un avocat d'office pourtant, et qui n'a pas l'excuse d'être l'ami de son client, son avocat. Mais comment te dire? Il a demandé si Charlotte était morte vierge, si on l'avait examinée. Il y a eu un murmure de dégoût dans la salle, une indignation de tous. Elle, mon enfant, si pure, si noble, une sainte! Ah, j'aurais souffleté cet homme! Même l'assassin en a été remué, lui que rien ne touche. Je l'ai vu. À ce moment, il a pris sa tête dans ses mains et il a pleuré. Réponds, est-ce que cela ne devrait pas être défendu par la loi de parler ainsi d'une victime en plein tribunal? Que croyait-il donc, ce Robin, qu'elle avait eu un amant? Un amant? Elle, un amant? L'indignation du vieillard était si forte que soudain il fondit en larmes. Le fils, en présence de cette touchante douleur, sentit lui aussi les larmes lui venir, et les deux hommes s'embrassèrent sans se dire un mot. « Vois-tu, reprit le père quand il put parler, c'est là le côté affreux de ces débats, cette discussion en public sur tant de choses intimes, elle qui avait tant de pudeur pour ses moindres sentiments. Je te l'ai dit, je suis sûr qu'elle était malheureuse tout l'hiver par l'absence de Maxime. Elle l'aimait, vois-tu, sans vouloir le montrer. C'est bien cela qui a exaspéré la jalousie de ce Gresloup. Quand il est arrivé dans la maison, qu'il l'a trouvée si gracieuse, si simple, il a cru pouvoir la séduire, l'épouser. Comment s'en serait-elle doutée quand moi-même, qui ai tant l'habitude des hommes, je n'ai rien deviné, rien vu? » Et lancé sur sa route, durant tout le dîner, puis durant toute la soirée, le marquis parla, parla. Il goûtait cette consolation, la seule possible dans certaines crises, de se souvenir à haute voix. Et ce culte religieux que leur malheureux père gardait pour la morte était pour le fils qui écoutait, sans répondre, quelque chose de tragique en ce moment où il se préparait. À quoi? Est-ce qu'il allait vraiment porter ce coup terrible au vieillard? Retiré dans sa chambre avec ce grand silence d'une ville de province autour de sa méditation, il reprit la lettre de sa sœur et il la relut, quoiqu'il en sût par cœur toutes les phrases. Il sortait de ces pages tracées par cette main aujourd'hui à jamais immobile, un soupir si désespéré, un souffle d'agonie si triste et si navrant. L'illusion de la jeune fille avait été si folle, ses luttes si sincères, son réveil si amer, que le comte sentit de nouveau les larmes couler le long de ses joues. C'était la seconde fois qu'il pleurait de la journée, lui qui, depuis la mort de Charlotte, avait gardé ses yeux secs et comme brûlés par la haine. Il se dit « Grélot a tout mérité ». Il resta immobile quelques minutes, et marchant vers la cheminée où le feu achevait de s'éteindre, il posa sur la bûche à demi consumée les feuillets de la lettre. Il fit craquer une allumette et la glissa sous le papier. Il vit la ligne de flamme se développer autour de ce papier, puis gagner la frêle écriture, puis transformer cette unique preuve du misérable amour et du suicide de sa sœur en un débris noirâtre. Il acheva de mélanger ce débris au centre à coups de pincette. Il se coucha en disant tout haut « C'est fait ». Et il s'endormit, comme au soir de sa première bataille, du sommeil assommé qui succède chez les hommes d'action aux grandes dépenses de volonté pour n'ouvrir les yeux, lui si matinal d'ordinaire, qu'à 9 heures le lendemain. « Monsieur le marquis a défendu qu'on éveillât mon capitaine, » répondit Pourra, quand appelé par son maître, il ouvrit les volets. Le soleil entra, un gai soleil de fin d'hiver, au lieu du ciel triste et bas de la veille. « Il est parti, voilà 1 heure. Mon capitaine sait qu'aujourd'hui on a dû amener l'accusé par le souterrain. Tout le monde est exalté contre lui. « Quel souterrain ?» demanda André. « Celui qui va de la maison d'arrêt au palais de justice. » Il paraît qu'on l'emploie pour les grands criminels, ceux qui pourraient être écharpés. Ma foi, mon capitaine, si je le voyais passer, celui-là, je crois bien que j'aurais un peu l'envie de lui tomber dessus. Les chiens enragés, ça ne se juge pas, ça s'abat. Bon, continua-t-il, j'ai oublié les lettres de monsieur dans le salon. Il revint après 1 minute, ayant à la main 3 enveloppes. André, qui jeta un regard sur les 2 premières, devina tout de suite à l'adresse de qui elles venaient. La 3e portait une suscription d'une écriture inconnue. Elle avait été adressée à Lunéville, de Paris, puis dirigée sur Rion. Le comte la décacheta et lut les 3 lignes que Sixte avait griffonnées avant de prendre le train pour Rion. Les mains de cet officier si brave et qui ne savait pas le sens du mot peur se mirent à trembler. Il devint pâle comme la feuille qu'il tenait dans ses mains tremblantes, si pâle que Pourra lui demanda lui-même avec épouvante « Mon capitaine est malade ? Laisse-moi !» dit brusquement le comte. « Je m'habillerai seul. » Il avait besoin, en effet, de se remettre du coup subit qui venait de le frapper. Il se trouvait donc quelqu'un au monde pour savoir le terrible secret, quelqu'un qui connaissait le mystère de la mort de Charlotte et qui n'était pas Robert Grélot, car il avait vu des pages de la main du jeune homme et ce n'était pas son écriture. Ce fut une secousse de terreur comme les hommes les plus courageux peuvent en ressentir devant un fait si absolument inattendu qu'il en prend un caractère surnaturel. Le frère de Charlotte aurait vu sa sœur, là, devant lui, vivante, qu'il n'aurait pas été terrassé d'un étonnement plus effrayé. Quelqu'un savait le suicide de la jeune fille et la lettre écrite par elle avant de mourir, et le reste peut-être. Et ce quelqu'un, ce témoin mystérieux de la vérité, que pensait-il de lui? L'interrogatoire par laquelle se terminait le billet anonyme le disait assez. Subitement, le comte se souvint de ce qu'il avait osé cette nuit. Il se rappela cette lettre jetée au feu, et le pourpre de la honte lui vint aux joues. Cette résolution, prise la veille, et sur laquelle il avait dormi, il ne pouvait plus la tenir. Qu'un homme eût le droit de dire « Le comte de Jussat a commis une lâcheté », cela dépassait pour ce gentilhomme affamé d'honneur ce qu'il était capable de supporter. Son trouble de la veille, qu'il avait cru fini, se réveilla de nouveau, rendu plus intolérable par le retour de son père qui lui dit « On a entendu les témoins, j'ai déposé. Mais ce qui a été dur, ça a été de me trouver dans la petite salle, avant l'audience, avec la mère de Grélot. Je l'avais déjà remarqué, cette femme en deuil, à une fenêtre de l'hôtel du commerce, un petit hôtel au coin de la rue. C'est une figure à ne pas l'oublier, une face sévère, avec des yeux noirs qui ont comme un feu sombre dans les larmes. Elle est venue à moi et elle m'a parlé. Elle m'a adjuré de dire que son fils était innocent, que je le savais, que je n'avais pas le droit de déposer contre lui. Enfin, une scène terrible, à laquelle j'ai dû me soustraire en sortant, la malheureuse. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est son fils. Quelle étrange chose qu'un scélérat comme celui-là puisse encore avoir au monde un cœur qu'il aime comme un fils, comme j'aimais Charlotte, comme je t'aime. Hélas, continua le cruel vieillard. Il est 1 heure. Le procureur général va plaider, puis la défense. Entre 5 et 6 heures, nous saurons le verdict. Ah, que cela me rassasira le cœur de le regarder pendant l'énoncé de la sentence. Et ce n'est que juste. Il a tué. Il doit mourir. Entre 5 et 6 heures. Quand le comte André se trouva seul, il recommença de se promener de long en large. Comme la veille, tandis que Pourrat desservait la table avec le valet de chambre de M. de Jussat. Ces deux hommes ont raconté que jamais le capitaine ne leur avait paru aussi violemment inquiet que pendant les quelques 30 minutes qu'ils étaient demeurés à faire ce service. Leur stupeur fut grande lorsqu'il demanda son chapeau et son pardessus, lui qui avait refusé de sortir depuis les 48 heures qu'il était arrivé à Arion. Un détail fit frémir le brave Pourrat. Il constata que l'officier avait pris avec lui son revolver, posé depuis 2 jours sur la table de nuit. Le soldat communiqua ses craintes à son compagnon. « Si Grillo est acquitté, dit-il, le capitaine et Tom a lui brûlé la cervelle, là, sur place. »« Nous devrions le suivre, peut-être, » répondit le valet de chambre. Tandis que les deux domestiques délibéraient, le comte avait pris la grande rue qui conduit au palais de justice. Il la connaissait pour être venu souvent à Rion dans son enfance. Cette vieille ville parlementaire, avec ses grands et beaux hôtels bâtis en pierre noire de Volvic, semblait plus vide, plus silencieuse, plus morte encore que d'habitude, tandis que le frère de Charlotte marchait vers la cour. La foule amassée aux abords du palais et qui remplissait l'étroite ruelle Saint-Louis par où l'on accède à la salle des assises suffisait à expliquer cette physionomie d'abandon. L'affaire Gresloup avait attiré tous ceux qui pouvaient disposer seulement d'une heure. L'officier eut de la peine à fendre cette foule, composée de paysans arrivés de la campagne et de petits boutiquiers qui discutaient les bruits venus du dedans. Il arriva devant les deux marches qui mènent au vestibule et sur lesquelles se tenaient 2 soldats chargés de contenir le peuple. Il sembla hésiter, puis au lieu d'entrer, il poussa jusqu'au bout de la ruelle et se trouva devant une terrasse plantée d'arbres nus et qui jetait entre les murs sinistres de la maison centrale et la masse sombre du palais de justice, domine la plaine immense de la Limagne. Une fontaine en remplit d'ordinaire le silence du bruit de son eau, et ce bruit restait perceptible encore, malgré la rumeur de la foule pressée dans la rue voisine. André s'assit sur un banc, près de cette fontaine. Il n'a jamais su expliquer depuis combien de temps il était là, ni quelle raison précise l'avait fait se lever, marcher vers l'entrée du palais, écrire son nom et quelques mots sur sa carte, donner cette carte à un soldat pour être porté par l'huissier au président. Il avait la sensation très nette d'agir presque malgré lui, et comme dans un songe. Seulement sa résolution était prise, et ce fut d'un pas très ferme qu'il entra dans la salle, quand l'huissier vint le prévenir que le président l'entendrait aussitôt après le procureur général. Les dernières phrases du réquisitoire arrivèrent à ses oreilles, parlant d'exemples nécessaires et d'expiations méritées. Il vit cette salle dominée par l'image du troupier, toutes les têtes tendues dans une attention suprême, le président et les assesseurs avec le procureur général et l'avocat général, tout au fond, tous en robe rouge, les jurés à gauche du tribunal, Robert Grillo à droite, sur le banc des prévenus, les bras croisés, livide mais impassible, et du monde partout, derrière les magistrats, dans les tribunes. Au banc des témoins, il reconnut son père avec ses cheveux blancs. Cette vue, qui lui serra le cœur, n'empêcha pas qu'il ne gravît l'escalier avec courage, lorsque le président, au milieu d'un frémissement universel, eut déclaré qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il allait entendre M. le comte André de Jussat, le frère de la victime. « Vous n'avez pas à prêter serment, monsieur, » ajouta-t-il, « mais vous comprenez qu'il est de votre devoir de dire la vérité, toute la vérité. Veuillez vous tourner vers messieurs les jurés. »« Messieurs, » commença le comte. Le silence autour de lui était tel que sa voix fut entendue même de la porte du vestibule, et aucun de ceux qui ont assisté à cette scène ne l'oubliera. « Je n'ai que 2 mots à vous dire. Ma sœur n'a pas été assassinée, elle s'est tuée. » La veille de sa mort, j'ai reçu une lettre d'elle où elle m'annonçait sa résolution de mourir, et pourquoi. Messieurs, j'ai cru avoir le droit de cacher ce suicide, j'ai brûlé cette lettre. Si l'homme que vous avez devant vous, et il montra Grillo de sa main gauche en se tournant à demi vers l'accusé, n'a pas versé le poison, il a fait pire. Mais ce n'est pas de votre justice qu'il relève, et il ne doit pas être condamné comme assassin. Il est innocent. À défaut d'une preuve matérielle que je ne peux vous donner de cette innocence, je vous apporte ma parole. » Ces phrases tombaient une à une dans une espèce d'angoisse de toute la salle. On entendit un cri suivi d'un gémissement. « Il est fou !» disait une voix. « Il est fou, ne l'écoutez pas !»« Non, mon père, » reprit le comte André qui reconnut l'accent du marquis et qui se tourna vers le vieillard comme écroulé sur son banc. « Je ne suis pas fou. J'ai fait ce que l'honneur me commandait. J'espère, monsieur le président, que l'on m'épargnera d'en dire davantage. Vous pouvez vous retirer, monsieur, dit le magistrat, que cette scène tragique semblait avoir lui-même remué jusqu'au fond. Car malgré son impassibilité officielle, sa voix était altérée pour prononcer ces mots, et il ne put reprendre la vraie direction des débats que lorsqu'il eut vu cet acteur inattendu du drame disparaître à travers la foule. Elle s'écarta, cette foule, avec une sorte de terreur, et 10 minutes après cette terrible déposition, le comte avait tourné le coin de la rue Saint-Louis sans que personne songeât ni à l'aborder ni à le suivre. Comment employa-t-il le reste du jour? Ni lui ni personne n'a pu le dire. Sur le moment, l'opinion générale fut qu'il était allé se brûler la cervelle. En réalité, il dut marcher longtemps et très loin, car des bourgeois de Courtrombe qui revenaient après les assises le rencontrèrent sur la route de ce village. Il sortait d'une auberge où il avait écrit quelques lettres adressées l'une à son père, l'autre à sa mère, une troisième à son colonel, une dernière à M. de Planes. À 9 heures, il frappait à la porte de l'hôtel du commerce et il demandait au garçon si M. Gresloup était là. Cet homme avait entendu le récit de la dramatique audience à la suite de laquelle le jury avait rapporté un verdict d'acquittement. Il devina qui se trouvait devant lui et il eut le bon sens de répondre que M. Robert Gresloup n'avait point paru. Malheureusement, il crut bien faire de monter aussitôt chez le jeune homme qui, sorti de prison depuis 1 heure, se trouvait en effet avec sa mère et M. Adrien Sixte. Ce dernier n'avait pu résister aux supplications éperdues de la veuve qu'il vint aider à raffermir son fils. « Monsieur, lui dit-il après avoir demandé la permission de lui parler à part, prenez garde, monsieur le comte de Jussat vous cherche. « Où est-il ? Demanda fiévreusement Gresloup. « Il ne doit pas avoir quitté la rue, répondit le garçon, mais je lui ai dit que vous n'aviez pas paru ici. « Vous avez eu tort, répliqua Gresloup et prenant son chapeau, il se précipita vers l'escalier. « Où vas-tu ? Implora sa mère. Il ne répondit pas. Peut-être n'entendit-il même pas ce cri, tant il avait mis de vitesse à descendre les marches de l'escalier. L'idée que le comte André le croyait assez lâche pour se cacher de lui le bouleversait. Il n'eut pas longtemps à chercher son ennemi. Le comte était debout de l'autre côté de la rue, qui surveillait la porte. Robert le reconnut et marcha droit sur lui. « Vous me cherchez, monsieur ? » lui demanda-t-il fièrement. « Oui, » dit le comte. « Je suis à vos ordres, » continua Gresloup. « Pour telle réparation qu'il vous conviendra d'exiger de moi. Je ne quitterai pas Rion, je vous en donne ma parole. »« Non, monsieur, » répondit André Jussat, « on ne se bat pas avec les misérables comme vous, on les exécute. » Et tirant son revolver de sa poche, avant que l'autre pût faire un mouvement, il lui logea une balle dans la tête. On entendit à la fois de l'hôtel le bruit de la détonation, un cri d'agonie, et quand on accourut, on trouva le comte André debout contre le mur, qui jeta son arme et, croisant les bras, dit simplement, en montrant le corps de l'amant de sa sœur à ses pieds, « J'ai fait justice. » Et il se laissa arrêter sans résistance. Durant la nuit qui suivit cette scène effrayante, certes, les admirateurs de la psychologie de Dieu, de la théorie des passions, de l'anatomie de la volonté, eussent été bien étonnés s'ils avaient pu voir ce qui se passait dans la chambre numéro 3 de l'hôtel du commerce. Au pied du lit, où reposait un mort, le front bandé, se tenaient agenouillées 2 personnes. L'une était la mère de Robert Gresloup, et l'autre le grand négateur, qui pour la première fois, sentant sa pensée impuissante à le soutenir, s'humiliait, s'inclinait devant le mystère impénétrable de la destinée, et pour le mort, pour Charlotte de Jussat, pour le comte André, pour la mère désespérée, pour lui-même, disait les mots de la seule prière qu'il se rappelait de sa lointaine enfance. « Notre Père, qui êtes aux cieux. » C'est ainsi que se termine Le Disciple de Paul Bourget.